14h05 minutes, ici Nathalie Normando. Je vous souhaite un excellent vendredi, Pascal. Un très bon week-end aussi en perspective. Luc Lavoie, dis-moi, avant de te parler de baseball, es-tu amateur de carême? Fais-tu le carême, toi, dans ta vie? As-tu déjà fait le carême dans ta vie?
Ah ben oui, je l'ai déjà fait, mais plus maintenant. Oui. Mais moi, j'ai grandi dans un univers qui était encore très, très religieux. Nous, ben moi, je viens de Rimouski. Mais à Rimouski, oui. L'Halloween, ça n'existait pas. On entendait parler de ça par les canaux de télévision de Montréal. Ce qu'on faisait, nous, c'était le Mardi Gras. Et ça, c'était le début du carême. Le Mardi Gras, on allait chercher nos bonbons, puis on pouvait en manger jusqu'à minuit. Puis le lendemain, c'était le Mercredi des Cendres qui enclenchait une période de 40 jours du carême. Mes parents n'étaient pas particulièrement religieux, mais ils trouvaient que c'était une bonne occasion pour empêcher les enfants de se bourrer de bonbons du matin au soir. Mmh. Alors, pendant 40 jours, on le faisait.
Eh bien, mais là, tu as mis cette tradition de côté. J'imagine que tu ne fais pas comme Gaston Therrien qu'on a entendu un peu plus tôt. Là. Écoute, Gaston, il fait ça, analyste sportif RDS, fait ça depuis 52 ans, imagine.
Oui, mais il a expliqué ses raisons aussi. Là. C'est pas uniquement parce qu'il est très pieux. C'est parce que c'est devenu une habitude pour lui de se nettoyer le régime, un peu le système, un peu.
Mais avouons quand même. Moi, je lève mon chapeau. Écoute, baseball, on en a parlé avec Ray Cloutier avant la pause. Écoute, 3h05, un match. Es-tu amateur? Es-tu fan de baseball? Je sais que t'es fan du Canadien, t'es fan de hockey.
J'ai été fan de baseball. Je ne le suis plus, vraiment. Je regarde plus jamais ça, même dans les séries mondiales. Mais c'est un sport en déclin, c'est ça l'affaire. Je comprends pas ce projet-là, que les gens s'enthousiastent pour ça. En plus, c'est une demi-équipe, puis on va construire un autre stade, puis tout ça. Non, 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 non.
Mais parce que les gens, évidemment, puis le sondage Cogeco cette semaine le confirmait, les gens sont plutôt enthousiastes à l'idée de voir les Expos revenir à Montréal, même si c'est une demi-équipe. Mais en même temps, il n'y a pas question d'investir de fonds publics dans une infrastructure. Donc, c'est périlleux pour le gouvernement, même si François Legault a manifesté l'ouverture, ce serait périlleux pour le gouvernement d'investir dans un stade de baseball à Montréal, non?
Moi, je pense que ce serait à la fois périlleux et pas très, très facile à justifier. Franchement, là, écoute, les stades se vident aux États-Unis, OK? Évidemment, il y a des droits de télévision, puis quand on parle du marché américain, c'est plus de 330 millions de personnes, ça fait que tu peux avoir une baisse, puis ça reste encore gigantesque, mais la génération maintenant des 18 ans, là, des 10 ans et plus, là, ils sont restés attachés aux Canadiens de Montréal, mais ils ne pensent pas qu'ils sont dans le baseball. Ils s'en vont beaucoup plus vers le soccer, qu'on appelle le foot généralement dans le monde.
Oui, oui, oui.
Et cette année, ils vont avoir un grand plaisir, on va avoir l'Euro.
Oui, tu vois, sur le 98-98.5, un auditeur nous écrit « Si on veut couler des milliards dans un sport, vivement le basketball. » Mais ça aussi, il était question de ça à Montréal, avoir une équipe de la NBA.
Il y en est question. C'est Michael Fortier, l'ancien ministre conservateur, qui est le promoteur de cette idée-là.
Oui.
Mais le problème avec le basket, d'abord, ça marcherait, ça marche à Toronto, ça marche partout. Mais c'est que ça coûte tellement cher, les franchises elles-mêmes, je ne sais plus, là, mais on va parler dans le 2 milliards de dollars. Il n'y a pas de ce type de capitaux-là disponible à Montréal. C'est énorme. Là. Mais si, effectivement, un jour, il devrait y avoir un sport professionnel supplémentaire, c'est évidemment le basketball qui est en train de prendre le dessus sur le baseball.
Oui, effectivement. Mais
d'ailleurs, une des seules villes, Nathalie, je veux te le souligner, au Québec, qui est encore très attachée au baseball, c'est la ville de Québec. Je sais pas pourquoi, il y a une tradition à Québec, mais il y a une tradition depuis toujours. Je me rappelle les Ploufs. Tu te souviens l'émission Les Ploufs que Gilles Carle a fait en film et tout? Bon, mais il y avait des joueurs de baseball là-dedans. Le jouer au baseball à Québec, c'était quelque chose aussi, et ça l'est encore, je crois, quelque chose d'important. Oui.
Il y a un auditeur qui nous demande quels sont les codes d'écoute du baseball à la télé. Je n'en ai aucune idée. Peut-être as-tu une réponse pour cette question.
Non, d'autant plus que ce ne serait pas juste, parce que c'est une équipe de Toronto, ce qu'on peut voir de plus proche de nous. Ça ne doit pas être des chiffres bien élevés.
Oui. Je veux qu'on passe du baseball à l'aviation. Parce que là, écoute, grosse nouvelle aujourd'hui, là, qui était prévisible selon Mehran, à qui on a parlé tout à l'heure. Air Canada n'achètera pas Air Transat parce que la Commission européenne aurait dit non à la transaction. Mais au-delà de ça, là, tu vois, tu as Pierre-Carl Pelladeau qui lève la main depuis un certain temps, qui dit « Moi, je suis prêt à l'acheter. » Et j'ai demandé aux auditeurs, est-ce qu'on devrait investir collectivement dans cette entreprise qui est un fleuron québécois et qui est très, très appréciée des consommateurs québécois? Tu en penses quoi, toi? Est-ce que, par exemple, le gouvernement pourrait être partenaire avec Pierre-Carl Pelladeau pour relancer Air Transat, pour acheter Air Transat et relancer l'entreprise?
Je sais pas, moi je suis pas très très amateur de gouvernements qui arrivent puis qui investissent dans ceci parce que c'est un fleuron puis cela c'est un fleuron puis
on est surpris, on est étonné.
Il y en a-tu des fleurons? Il y en a-tu des fleurons? Maintenant, s'il y a un plan d'affaires viable et que la Caisse de dépôt choisit d'investir sur des bases objectives, ben là, pourquoi pas? Mais je veux dire, une intervention genre investissement Québec avec un prêt pardonnable et surtout pas un prêt consenti dans les conflits d'intérêts, ah, 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 je pouvais pas m'empêcher de la dire, celle-là.
Elle est bien placée. Mais tu vois, il y a un auditeur, il nous a écrit un peu plus tôt, ce serait plus, je pense que ce serait plus payant d'investir dans Bombardier que de, c'est-à-dire dans Transat que Bombardier. On s'entend parce que c'était une aventure, ça a fait comme un gros flop, notre affaire, là. On a perdu combien, donc 1,3 milliard de dollars dans Bombardier ou à peu près?
Ah, ben là, c'est si tu prends la dernière injection de fonds. À travers 25 ans, là, Bombardier, ça nous a coûté des milliards et des milliards et des milliards. Ça a été complètement détruit par des erreurs de gestion qui étaient catastrophiques, par exemple, de se lancer dans la C-Series. Puis c'est encore le contribuable qui est là puis qui ramasse la facture. Je suis pas très friand de ces affaires-là. Maintenant, revenons à Air Transat.
Oui.
Je pense que Pierre-Carl Péladeau est très sérieux. Je pense qu'il a toujours une offre sur la table. Il a fait une offre en décembre, une offre, la deuxième offre qu'il faisait à 5 $ l'action, je crois. Elle est toujours valable. Elle est toujours valide. Jusqu'à maintenant, il pouvait même pas négocier avec la direction d'Air Transat parce qu'ils étaient liés dans cette convention entre acheteurs et vendeurs. Et là, maintenant, ils en sont libérés. Alors, il revient à Jean-Marc Eustache. C'est intéressant de noter, d'ailleurs, que Jean-Marc Eustache, le grand patron de Transat, celui qui est derrière la volonté de fusionner avec Air Canada, il a été membre du conseil d'administration de Québécois pendant une vingtaine d'années.
Ah, alors, il y a peut-être,
il y a peut-être des canaux de communication. Je t'avoue que j'ai pas de secret particulier à te révéler à ce sujet-là, mais je sais par contre que Pierre-Carl Péladeau est très, très sérieux, très, très sérieux, et qu'il a manœuvré dans ce dossier-là avec une main de maître dans son intérêt à lui, j'entends.
Oui. Un autre auditeur réagit, Daniel, on serait mieux d'investir dans Transat plutôt que dans un stade de baseball. C'est vrai que ça fait le gouvernement est interpellé. Puis un autre auditeur nous a dit, dans l'éventualité, prenons un scénario, là, que le gouvernement effectivement achète des actions parce que c'est au-delà du prêt pardonnable, là, maintenant, ce qui est à la mode au gouvernement, il y a la possibilité qu'on devienne actionnaire d'une entreprise, mettons partenaire avec Pierre-Carl Péladeau. Est-ce que ça plongerait François Legault dans une apparence de conflit d'intérêts compte tenu de son passé avec Air Transat, selon toi?
Si c'était le cas, je trouverais ça injuste. Parce que ça fait plus de 20 ans qu'il n'est plus là, là. Il y a quand même des limites, là, tu sais, d'appeler ça un conflit d'intérêts. Il
n'y
a plus aucun intérêt dans ça. Non, tu as raison de la poser, mais il n'y a plus aucun intérêt dans cette entreprise-là. Il y a peut-être un intérêt de cœur parce qu'il était un des fondateurs. Mais au-delà de ça, là, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il gagnait sa vie, puis il n'était pas en politique, puis il n'y avait rien à voir là-dedans. Puis quand il est entré en politique, il n'y avait plus d'action dans Air Transat. C'est pas très compliqué.
Ouais. Mais tu vois, lorsqu'on parle de l'intérêt de Pierre-Carl Péladeau pour l'aviation, du côté de Québec, là, les gens ne peuvent pas, évidemment, on peut pas évacuer la question liée au Nordique et au retour de la Ligue nationale parce qu'on a construit un centre Vidéotron. Puis en passant, on avait besoin d'un centre Vidéotron, le Clavois à Québec. Là. Et je t'entendais tantôt, Creed, dire « Ben là, c'est un scandale, cette affaire-là. » On avait un vieux Colisée Pepsi, Gion, parce que je vis à Québec. Oui, on avait un vieux Colisée Pepsi.
Mon problème, c'est qu'il y a eu 400 millions d'argent public, dont 200 millions venant de tous les Québécois, puis l'autre 200 venant de la ville de Québec. Admets avec moi que c'est beaucoup pour une équipe de hockey junior majeur, parce que c'est ça qu'ils ont à offrir, puis une trentaine de spectacles par année. C'est ce que je voulais dire. Je suis très content pour les gens de Québec. J'ai vu le centre Vidéotron. Il est magnifique, mais ça coûte cher pour un endroit qui est vide.
Mais ça coûte cher, Luc, des infrastructures sportives ou culturelles ou peu importe aujourd'hui. Là. Puis si tu construisais un centre Vidéotron aujourd'hui, ça ne coûterait pas 400 millions, ça en coûterait peut-être 600 puis 700 millions. Mais je veux revenir à Pierre-Carl.
Oui,
en tout cas, avec l'augmentation des coûts de construction et tout ça. Pierre-Carl Péladeau, est-ce que tu crois que c'est fini cette histoire d'acheter une équipe de la Ligue nationale et puis qui a décidé, comprenant là, qu'il n'y avait pas de chance, qui a décidé de refocaliser ou de focaliser son intérêt sur un autre enjeu, c'est-à-dire dada?
Je n'ai pas d'informations particulières à ce sujet, mais il est très évident que Bettman, personnellement, ne veut pas d'équipe à Québec. Quelles sont les raisons? On pourrait en discuter, là, mais on fera pas ça à la radio parce que là, il y a quelqu'un qui va entendre ci puis qui va entendre ça. Mais c'est évident que Bettman ne veut pas d'équipe à Québec. Alors, j'ai jamais entendu dire que Péladeau abandonnait. Sauf qu'il y a une chose, hein. La franchise, là, Je pense que les sénateurs d'Ottawa, quand ils sont entrés dans la Ligue en 1992, leur première saison, leur franchise avait coûté 60 millions. L'équipe de Seattle qui va arriver l'an prochain, là, eux autres, leur prix pour la franchise était autour de 800 millions de dollars. Et on pourrait penser que ça serait au moins 800 millions pour avoir la franchise, parce que ce que ferait la Ligue nationale, c'est que leur façon de procéder, ils diraient « OK, j'achète l'équipe des Nordiques de Québec, elle m'appartient, puis je la revends ». Et en le faisant, ils iront pas en bas du 800 millions. Mais quand tu penses à une entreprise comme Québécois, je pense qu'à des prix aussi élevés que 800 millions pour la franchise, là, ça n'a rien à voir avec l'équipe puis ses coûts d'opération et tout ça. Je pense pas qu'ils ont les poches assez profondes pour faire ça. Il faudrait qu'il y ait un partenariat très important. Puis ça semble pas mal loin à l'horizon.
Oui, mais c'est ça le problème. Je pense que c'est un frein, le coût. C'est devenu une méga business, le sport professionnel.
Ah, ben oui.
Ça n'a aucun bon sens.
Ah, c'est incroyable. Et la Ligue nationale est en croissance. Ben évidemment, elle vit la pandémie. Là. C'est pas un temps normal. Le baseball recule. Le basketball a le vent dans les voiles comme jamais. La NFL reste ce bijou. Puis t'as la LNH qui est quand même une entreprise qui se porte extraordinairement bien. Le baseball, ça recule. Il s'est rendu un peu fou, le baseball, là. On est au point où un bon joueur, c'est 34-35 millions par année. Ça n'a pas de bon sens. Là. Ça n'a pas de bon sens. Là. Il y a un point où ça devient, mais vraiment...
Il faut que tu en vendes des billets, hein, puis des petites casquettes, puis des
toutous. Mais eux autres, il faut savoir, Nathalie, quand même que leur plus grande source de revenus, c'est pas les étiquettes, là, c'est les droits de télévision. Ils ont des contrats de droits de télévision qui sont redistribués à part égale entre les équipes. C'est énorme! Énorme! Des milliards! Alors,
Voilà pour les billets. Tu vas faire quoi en fin de semaine? Petit jambon, évidemment, tradition de Pâques oblige. Est-ce que tu as une tradition, toi, pour la fin de semaine de Pâques?
Ben normalement, je serai avec mes enfants puis mes petits-enfants. Tu comprends, on peut pas, même si je suis vacciné, je vais pas tricher, Mais on va maintenir la tradition du jambon, puis des œufs dans le vinaigre avec du colorant. Fait qu'il y a des œufs bleu pâle, des œufs roses, des œufs de toutes les couleurs, des œufs rouges, et toute l'affaire.
Et puis, c'est quoi ça, les œufs de couleur? Raconte-nous, ça m'intéresse.
C'est parce que tu mets le jambon au milieu. Ben, imagine une belle assiette, là. T'as ton beau jambon, un jambon à l'os, là. Le mets là. Puis autour, la décoration, ce sont des œufs qui ont été mis dans le vinaigre avec du colorant pendant 24 heures. Et ça te fait comme un décor magnifique. Alors, c'est aussi bon pour les yeux que pour la panse, comme disait ma mère.
Wow! Écoute, merci. Je suis convaincu qu'il y a plein d'auditeurs
précédé de la soupe que mon père décédé, il a pris il y a exactement un an, mon père est décédé. Lui, c'était à Pâques. Sa participation, c'était ce qu'il appelait la soupe du chef, qui est une soupe paysanne classique. Alors, on va faire ça, mais on sera pas nombreux.
Une soupe aux légumes, là, c'est ça.
Une belle soupe aux légumes, comme faisaient nos grands-mamans.
Avant de te laisser, je
t'attends. Puis du chocolat, oublie pas le chocolat, Nathalie.
Mais oui,
là.
Effectivement, c'est un incontournable.
J'ai oublié de mentionner le chocolat.
Chocolat? Oui.
Tellement que je m'en prive constamment, parce que sans ça, j'en mangerais tout le temps. Mais là, à Pâques, c'est comme, on ouvre les vannes, on aime le chocolat.
C'est bien. Écoute, avant de te quitter, mon cher Luc, je veux que tu nous parles de ce qui se passe du côté des États-Unis. Évidemment, tu le disais, là, Joe Biden, tu le décris comme un président plutôt beige. Ça a l'air à fonctionner, par contre, la vaccination. Il est peut-être beige, le président, mais ça a l'air à marcher.
Ça fonctionne, c'est incroyable. Ils sont rendus à 37% de la population complètement vaccinée. Et là, il faut comprendre ici au Québec que complètement vacciné, ça veut dire les deux doses. C'est énorme, comprends-tu? Oh. C'est énorme. Il avait promis 1 million de vaccins par jour pendant ses 100 premiers jours. Il est arrivé à cela au 60e jour. Il va arriver plutôt autour de 200 millions. Alors, on peut dire que leur opération vaccination, elle est absolument incroyable. Quand les Américains, et ça je l'ai souvent dit, hein, on leur trouve toutes sortes de défauts, puis dans les 4 dernières années, on a vu une frange ou une composante de la société américaine qui fait pas très honneur à ce grand pays, mais quand les Américains se décident à faire quelque chose, ils sont absolument incroyables. Les moyens qu'ils peuvent déployer, la vitesse, la technologie, tout ce que tu veux, alors ils sont en train de nous donner une bonne leçon.
Bien. Écoute, Luc, après la pause, on va rejoindre notre ami Martin McGuire. Est-ce que le congé pascal va porter chance à nos Canadiens de Montréal? Je sais que tu les adores. En passant, ta recette de deux farcis colorés, là, ça suscite des réactions sur le 98-98.
C'est bon!
Oui, merci.
Mais l'année passée, j'ai fait une erreur. J'ai mis trop de colorant. Les œufs étaient foncés. Là, ils étaient rouges vifs puis bleus, comprends-tu, indigo.
Ils étaient rouges libéral, bon rouge péquiste.
Ben oui, c'est ça. Non, mais il y avait un petit peu de blé. Non, le bleu était pas péquiste. J'aurais dit que c'était un bleu caquiste. C'est bleu marine à la Duplessis, là, comme on les aime. Là,
tu sais. Ah, 14h. Oui, tu me fais rire. 14h21 minutes. C'est la pause, oui, puis on jase du Canadien de Montréal. Est-ce que le congé pascal porte chance à nos glorieux? C'est dans quelques instants.